Deuxième partie, la bataille sous-marine, chapitre 1er, le Jules Verne II. La façon dont avançaient les travaux du Jules Verne II tenait véritablement du prodige. Trouvant qu'avec deux équipes d'ouvriers, une pour le jour et l'autre pour la nuit, le montage et l'agencement du sous-marin n'allaient pas encore assez vite, Gösenström et Goelmordax avaient triplé le nombre des travailleurs. La construction du second sous-marin devait avancer beaucoup plus rapidement que celle du premier. Tout l'outillage spécial existait et certains appareils délicats, dont l'exécution avait demandé plus d'un mois pour le Jules Verne, pouvaient être maintenant fabriqués en quelques jours. Maintenant, une véritable petite ville, presque entièrement construite en bois et en carton bitumé, occupait les rives encore sauvages naguère du golfe de la Girolata. Ce pittoresque amas de cahutes et d'ateliers, improvisés en quelques jours, avait jailli de terre comme un décor de féerie au coup de sifflet du machiniste par la puissance des millions d'Ursenström et grâce à l'énergie de Goelmordax. Certains des ateliers expédiés de Paris par une société de construction démontable avaient pu être édifiés en quelques heures. Jamais l'alliance féconde du capital et de l'intelligence n'avait produit de plus merveilleux résultats. Admirablement choisis et disciplinés, les ouvriers travaillaient avec un zèle incroyable. Jamais parmi eux ne s'élevait le moindre murmure, la moindre récrimination. Et Goelmordax, qui possédait au plus haut point le génie de l'organisation, avait arrangé les choses de telle sorte que jamais il n'y avait une minute de perdu. Quand une équipe allait prendre son repas ou se reposer, une autre équipe, toute prête, prenait immédiatement sa place et le travail ne souffrait pas un instant d'interruption. Tous les ouvriers, depuis le dernier des manœuvres jusqu'au contremaître et au chef de travaux, étaient stimulés par des primes proportionnées à leur labeur. Ce qui parvenait à diminuer, ne fût-ce que d'une heure, le temps prévu pour l'exécution de telle ou telle pièce sur les devis de Goelmordax, arrivaient facilement à doubler la rétribution déjà considérable de leurs heures ordinaires de travail. Goel se multipliait. Ne prenant plus chaque nuit que quelques heures de repos, il passait littéralement sa vie sur les chantiers. Et quand il allait dormir, brisé de fatigue, assourdi par le vacarme des marteaux, les yeux brûlés par la réverbération des lampes électriques, et des lanternes à acétylène, il était immédiatement remplacé par Ursenström. De cette façon, les travailleurs n'étaient jamais seuls. Jamais la moindre velléité de paresse ou de négligence ne pouvait se glisser parmi eux. Bien loin d'être mécontents de se voir ainsi tarabustés, les ouvriers étaient bien enchantés de la présence de leur patron, car Ursenström et Goel étaient aussi généreux envers les travailleurs sérieux qu'ils étaient prompts à se débarrasser des fainéants et des mauvaises têtes. Grâce à ces efforts acharnés, le Jules Verne II prenait forme et tournure, pour ainsi dire à vue d'œil. La fièvre d'activité et de labeur que dépensait ainsi Goelmordax était pour lui une façon d'attaquer la peine dont il souffrait et de se redonner à lui-même du courage, de se bien persuader que sa chère Edna n'était pas définitivement perdue pour lui, qu'il la retrouverait et qu'il tirerait vengeance de son ravisseur. « Vous allez voir, » répétait-il 20 fois par jour à Ursenström, « dès que le Jules Verne II sera terminé, oh, quelle chasse terrible nous allons donner à cet infâme pirate de Tony Fowler !»« Je ferai construire, j'inventerai s'il le faut, des appareils » pour le dépister, pour le traquer au fond même des abîmes de l'océan. Sans doute, répondait Ursenström d'une voix faible. Je sais, oui, mon cher Goel, que vous êtes un homme de génie, que vous tenterez l'impossible. J'ai confiance en vous. Mais le milliardaire prononçait ces paroles d'un ton si vol et si navré, que malgré toute sa puissance de volonté, Goël sentait passer en lui le souffle glacial du désespoir. Il en venait à se demander si vraiment Edda n'était pas morte, et si les surhumains efforts tentés pour la retrouver ne seraient pas dépensés en pure perte. Depuis la disparition de sa fille, Ursenström avait bien changé. Cet homme aux muscles athlétiques, au cerveau fortement organisé par le vouloir et pour l'action, semblait avoir perdu tout ressort et toute vigueur. En quelques jours, il avait vieilli de 10 ans. Sa longue barbe couleur d'ambre s'en mêlait maintenant de fils d'argent. Son regard était devenu terne et sans chaleur. Ses gestes s'étaient faits lents, ses résolutions indécises. Lui qui avait résisté aux souffrances de toute une vie d'aventure, qui avait triomphé du froid, de la faim, des sauvages et des bêtes fauves, des tempêtes et des glaces du pôle, se trouvait maintenant faible et désarmé comme un enfant. Il suivait, sans les discuter, pour ainsi dire avec une docilité passive, toutes les idées que lui suggérait Goël, mais il n'avait aucune foi dans le succès. Il gardait pendant des jours entiers un sombre mutisme et des idées de suicide commençaient à le hanter. Chaque semaine, son désespoir et sa tristesse se faisaient plus profonds. Heureusement, ses amis veillaient sur lui. Il s'efforçait par tous les moyens possibles de relever son courage abattu. Monsieur Lepic et surtout Mademoiselle Segui étaient devenus les compagnons assidus du Norvégien. Il le suivait partout où il se rendait pour l'empêcher de rester livré à lui-même. Mademoiselle Segui, en cette occasion, faisait preuve d'un véritable dévouement. Aimant Edda à la façon d'une sœur aînée, elle se contraignait pour arriver à cacher à Ursenström toute l'étendue de son propre chagrin. Croyez-moi, disait-elle parfois à Monsieur Lepic, il y a des moments où je suis tout aussi désespérée au sujet d'Edda que son père lui-même. Oh, je fais des efforts inouïs pour le consoler, mais je crains bien que nous ne revoyons jamais la pauvre disparue. Et vous avez absolument tort, répliquait Monsieur Lepic avec feu. Ne nous avons-nous pas 100 fois démontré, Goël et moi, qu'Edda doit être saine et sauve? Mais peut-être, mais il faudrait rattraper Tony Fowler. Il se passera encore bien du temps avant qu'on ne puisse commencer à le poursuivre. Ah, cela viendra. Oui, mais d'ici là, le misérable aura eu le temps de se mettre en sûreté avec sa prisonnière et nous ne reverrons plus la pauvre Edda. Et Mademoiselle Segui éclatait en sanglots. Mais sitôt qu'elle apercevait Ursenström, elle essuyait furtivement ses larmes et s'efforçait de prendre un visage souriant. Sa bonne humeur d'autrefois avait fait place à une profonde tristesse. Il y avait bien longtemps qu'elle ne s'était permis la moindre taquinerie envers de Monsieur Lepic. Quant à celui-ci, qui avec une foi aveugle dans les promesses de Goël était absolument sûr de la délivrance d'Edda, plus sûr que Goël lui-même, il se mettait en quatre, mais vraiment d'ailleurs, pour faire partager à tous sa superbe confiance. On souriait de sa naïveté, de son enthousiasme de grand enfant, mais on ne le croyait qu'à demi. Monsieur Lepic avait voué une haine féroce à Tony Fowler. Il se jurait au moins 100 fois par jour que cet écumeur de mer, ce pirate, ce voleur de sous-marin, ne mourait que de sa main. Ses nuits d'insomnie se basaient à chercher des supplices raffinés, capables de punir, comme il le méritait, les forfaits de l'infâme Yankee. Après avoir passé en revue toutes les tortures possibles et inimaginables, après avoir trouvé que les inquisiteurs, les Chinois et même les Peaux-Rouges n'étaient que des tortionnaires sans envergure, il se dit que la nature seule pouvait lui venir en aide, et il se creusa la tête en de nouvelles recherches. Un matin, en s'éveillant, il entendit un bourdonnement sonore dans sa chambre. Une guêpe de belle taille cherchait à s'échapper et voltigeait le long des vides de la fenêtre. La vue de l'insecte fit tressaillir M. Lepic. Il sauta à bas de son lit brusquement et se frappa le front en criant « Mais j'ai trouvé !» Et comme un nouvel Archimède, il allait s'élancer au dehors pour annoncer à tous qu'il tenait enfin sa vengeance, quand il se rappela le temps qu'il n'était pas à Syracuse et que les convenances modernes exigeaient qu'il sortît au moins vêtu d'un pantalon. Il s'habilla rapidement et s'en fut trouver Mademoiselle Segui, le visage rayonnant de joie. Il se frottait les mains et par moments exécutait quelques entrechats, peu compatibles avec la gravité qui sied à un savant. « Eh bien, qu'avez-vous donc ?» demanda Mademoiselle Segui en souriant, tout étonnée de cette joie subite. « Ah, que je le tienne, le traître !» répondit Monsieur Lepic en montant le poing à la mer. « Ah, que je le tienne ! Il ne sait pas ce qu'il attend !» Mais voyons, expliquez-vous, qu'y a-t-il? Il y a, mademoiselle, que j'ai enfin trouvé le supplice sans pareil que je réserve à Tony Fowler. En amour, voici la chose. J'enduis de miel le misérable, je le suspends aux branches d'un arbre et je l'abandonne à lui-même. Alors, vous verrez accourir de tous les coins de l'horizon les mouches, les guêpes, les frelons et tous les mangeurs de cadavres. Et en moins de temps qu'il en faut pour le dire, Tony Fowler, assailli, sera dévoré tout vivant par ses minuscules ennemis. Que pensez-vous de cela? N'est-ce pas génial? Mais c'est tout simplement affreux, répondit la jeune fille. Vous avez des idées atroces? Non, mademoiselle, je suis un justicier. Et sur ces mots, M. Lepic retourna dans sa chambre pour mûrir son projet et lui apporter quelques perfectionnements. Ce jour-là, l'étoile polaire fut signalée. Avant le coucher du soleil, le yacht était à l'ancre dans le golfe. Le capitaine de Noirtier descendit à terre et fut accueilli par Sundström et par Goel, auxquels se joignirent bientôt M. Lepic et Mlle Segui. Tous les cinq eurent ensemble un entretien qui se prolongea fort avant dans la soirée. Monsieur de Noirtier, au cours de son voyage, avait recueilli plusieurs indices précieux dont il n'avait pu informer ses amis, étant donné le mauvais fonctionnement de l'appareil de TSF qui reliait le yacht au golfe de la Giralata. Suivant les instructions qui lui avaient été données, le capitaine de l'étoile polaire était remonté jusqu'à Gibraltar et il avait disposé en amont du détroit. Les travaux d'achèvement du Jules Verne II furent poussés activement. Mais à partir de ce jour, Ursel Ström, alarmé par les paroles involontairement imprudentes de Goel, devint de plus en plus sombre et taciturne.